Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour à tous et bienvenue dans Géopolitique que vous pouvez également écouter en podcast. Le camouflet essuyé par Zelensky à Washington où il n'a pas obtenu les garanties de sécurité ni même le financement militaire espéré met la Pologne dans une position délicate. Varsovie doit à la fois gérer son soutien à l'Ukraine et maintenir une relation forte avec les États-Unis, son principal allié jusqu'à présent en matière de sécurité. C'est à la Pologne que le secrétaire à la défense américain Pete Hegseth a réservé sa première visite bilatérale européenne. Les États-Unis considèrent la Pologne comme un allié exemplaire sur le continent, un statut que la Pologne doit à ses 4,7% de PIB consacrés à la défense en 2025, la part la plus élevée au sein de l'OTAN. Surtout, une grande partie de ces fonds sont destinés à l'achat d'équipements militaires américains en attendant le juteux contrat de 96 hélicoptères Apache signé en août 2024 pour plus de 10 milliards de dollars. L'attitude de Donald Trump marquant un désengagement américain n'en a pas moins créé une onde de choc en Pologne. À l'heure où l'administration Trump refuse d'envoyer ses forces en Ukraine dans le cadre d'une éventuelle mission de maintien de la paix et annonce la suspension de son aide militaire à Kiev, les pays d'Europe centrale et orientale comme la Pologne, les Pays-Baltes et la Roumanie, qui ont toujours vu les États-Unis comme leur principal garant de sécurité contre la Russie, sont en perte de confiance dans le soutien inconditionnel américain. La boussole stratégique polonaise va-t-elle pour autant changer ? Notre invité est Pierre Buller, ancien ambassadeur de France à Varsovie, professeur de relations internationales à Sciences Po. Son dernier ouvrage, Pologne, histoire d'une ambition, comprendre le moment polonais aux éditions Talendier. Pierre Buller, bonjour.
Bonjour.
Il y a quelques jours, donc, tombait l'annonce de l'arrêt de l'aide militaire américaine à l'Ukraine, ainsi que le retrait du système américain de renseignements militaires cruciaux. Est-ce que cela a été une surprise pour vous et comment percevez-vous ce retournement de stratégie américaine ?
Oui, je dirais qu'on est, on n'est plus surpris de rien s'agissant de Donald Trump qui a multiplié les écarts, les décisions, les annonces surprises dans une perspective de sidération de tous ceux qu'il a envie de sidérer, au fond, d'une certaine manière, d'invalider toute réaction. Et donc, je pense que c'est un effet qui a été atteint, mais en même temps, il a eu également des conséquences, un effet de choc, si je puis dire, une onde de choc sur les Européens qui se sont réunis à Londres dimanche dernier. Londres, un allié quand même très proche des États-Unis, avec une relation spéciale, et qui a été à l'origine du discours du président Macron mercredi dernier, qui véritablement dans lequel il sonne le tocsin à l'adresse de tous les alliés européens. Donc je crois qu'il y a une sorte de réveil plus ou moins brutal, et la Pologne est effectivement tombe de haut par rapport à cette alliés américains par lequel ils étaient fascinés en quelque sorte pendant des décennies, considérant même que c'est le président Reagan qui, avec Jean-Paul II, leur avait permis la libération du communisme. Ils se sont engagés ensuite dans la guerre d'Irak, où ils ont reçu, les États-Unis leur ont confié un rôle tout à fait important. Ils ont accepté d'ouvrir des prisons pour les terroristes, les djihadistes capturés en Afghanistan. Et donc, toute leur stratégie était fondée sur la garantie en béton armé des États-Unis, la réassurance pour la sécurité de la Pologne, qui est, je dirais, la menace qui pèse sur cette partie de l'Europe est plus sensible en Pologne et dans les pays baltes qu'elle ne l'est plus à l'ouest de l'Europe. Donc, je crois que c'est aussi, il y a une sorte de révolution copernicienne en cours dans les esprits. Ils ne comprennent pas, ils cherchent évidemment à aménager les relations avec M. Trump, qui effectivement, qui avait envoyé Pete Hegseth à Varsovie. La Pologne est aussi, je dirais, le bon élève de la classe atlantique, avec des dépenses de défense en 2025 de 4,7% du produit intérieur brut, ce qui est la proportion la plus élevée pour un pays de l'OTAN. La moitié de ces dépenses de défense sont consacrées à des achats d'armements, alors que la recommandation de l'OTAN est de 20%. Voilà. Donc là, ils sont à 50%. Ils achètent, comme vous l'avez souligné, du matériel de l'armement américain, des hélicoptères Apache, mais aussi des avions de combat F-35, des chars Abrams, des missiles Patriot, pour des montants très, très conséquents, ce qui n'est pas sans poser des problèmes à l'avenir.
Alors, évoquons ces problèmes, Pierre Buhler, d'achat de matériel essentiellement américain, un peu de Corée du Sud aussi, mais principalement, absolument. Alors peut-être avec des exigences différentes des Sud-Coréens par rapport aux Américains. En tout cas, cette question d'achat de matériel militaire américain pose un vrai problème.
Oui, ça pose un vrai problème, car ces équipements, ces armements ne peuvent pas être utilisés, ne sont pas à la libre disposition de ceux qui ont acheté, qu'il s'agisse de la Pologne ou des autres pays européens qui sont équipés d'armements américains. Chaque achat et chaque livraison est assorti d'une convention, d'un accord sur la destination et l'utilisation de cet armement. Ils ne sont autorisés, ils sont à la libre disposition des pays acheteurs que si ce pays est, se retrouve agressé sur son territoire. Mais en revanche, pour toute utilisation hors du territoire, il faut l'accord des États-Unis. Et pour toute cession, par exemple à l'Ukraine, il faut un accord explicite des États-Unis. Et c'est arrivé d'ailleurs, on l'a vu à plusieurs reprises, pour les livraisons de F-16. Les alliés européens, je crois que c'était les Néerlandais, ont dû demander l'autorisation de livrer des F-16. Et ça va même plus loin. C'est même un composant d'un armement européen qui serait d'origine américaine reste sous juridiction américaine. Un composant suffit. Il y a une loi qui s'appelle, enfin une réglementation qui s'appelle ITAR, qui dispose que dès lors qu'un élément d'électronique ou d'armement, d'une arme qui serait fabriquée en Europe, ne peut pas être utilisé n'importe comment, et notamment ne peut pas être exporté sans autorisation de Washington et du Pentagone. Donc c'est une véritable contrainte. Il se trouve que tous les Européens, sauf la France, pratiquement, sont largement, tous les alliés européens de l'OTAN, s'entend, sont largement équipés en armement américain, et notamment dans plusieurs domaines qui sont de très haute technologie, comme la défense aérienne, les aéronefs, qu'il s'agisse des hélicoptères Apache ou de tout avion de combat, ainsi que défense aérienne et les missiles à portée, disons, à longue portée, missiles offensifs de type HIMARS ou ATACOMS, pardon d'être un peu technique, mais ces équipements donc de haute technologie forment entre 60 et 70% des arsenaux européens. Alors, si on se retrouve devant le paradoxe suivant, c'est que vous avez un président américain qui invite lourdement les Européens à atteindre, il l'a fait à Davos notamment, à atteindre le niveau de 5% de leur PIB en dépenses de défense, qui est colossal, hein, avec en mode subliminal, mais peut-être même pas si subliminal que ça, une invitation à acheter américain pour se protéger de la seule menace qui pèse sur l'Europe, qui est la menace russe. Et on réalise, les Européens ont réalisé, que ce même président américain est en train d'opérer un rapprochement spectaculaire avec la Russie. Aux Nations Unies, il y a une semaine ou deux, les États-Unis ont voté avec la Russie une résolution sur l'Ukraine, sans mentionner l'auteur de l'agression, et contre les Européens. Donc, il y a, je dirais, vraiment une contradiction majeure. C'est que Le président Trump demande aux alliés de s'équiper, de dépenser 5% de leur PIB à des fins de défense, d'acheter américain autant que faire se peut, tout en s'acoquinant avec l'origine de la principale menace sur l'Europe. On est dans un monde, je dirais, on est presque dans le surréalisme. Et en tout cas, cette démarche, au fond, révèle la grande vulnérabilité des Européens vis-à-vis de ce qu'ils pensaient être leur allié américain. L'OTAN existe toujours, formellement. Les États-Unis ne vont probablement pas s'en retirer, mais le maniement de cet outil par les Américains, me semble-t-il, fait planer de lourds nuages sur l'avenir des Européens.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Alors, Pierre Buhler, est-ce que depuis plus de 3 ans maintenant que la guerre d'Ukraine a cours, on a des exemples de matériel américain qui n'a pas pu être utilisé pour aider l'Ukraine à riposter contre la Russie?
Eh bien, même sous la présidence Biden, qui était extrêmement favorable quand même à l'Ukraine, on a eu très longtemps des hésitations, même des refus, que des matériels ou des armements américains puissent être utilisés à l'intérieur de la Russie, c'est-à-dire riposter contre, par exemple, les bases de départ des avions qui viennent bombarder l'Ukraine, qui est quand même de bonne guerre. Et donc, ça n'a été accepté à chaque fois qu'avec retard. Mmh. D'ailleurs, les Européens aussi faisaient la même chose. Mmh. Les Allemands ont refusé de livrer des Taurus. Donc, tout ça, c'est pendant ce temps, les Ukrainiens se défendaient avec des moyens, disons, trop faibles par rapport à l'agression russe, et ce n'est qu'au bout de mois de combat que finalement les Américains et les Européens se sont résignés en quelque sorte, enfin en tout cas ont accepté de livrer ces matériels. Ensuite, comme je le disais, par exemple, l'Allemagne voulait livrer des chars Léopard 2 à l'Ukraine, mais il se trouve que dans ces chars Léopard 2, qui sont de fabrication allemande, il y avait des systèmes d'origine américaine achetés aux États-Unis, et donc l'Allemagne a dû demander l'autorisation aux Américains. Mais on était sous l'administration Biden. Qui ne faisait évidemment pas obstacle. Idem pour les F-16. Là, on se retrouve avec une administration qui est dans une relation tout à fait nouvelle, dont on ne connaît pas encore la finalité, pour être tout à fait franc. Je continue de m'interroger sur la stratégie américaine vis-à-vis de la Russie. Est-ce que c'est purement tactique pour afficher une paix, un cessez-le-feu suivi d'une paix que Trump s'attribuerait le mérite, ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond? Et je pense qu'on doit se poser cette question. Est-ce que les États-Unis ne sont pas en train de devenir d'entrer dans une relation adversariale avec les Européens, d'autant plus que ce qu'on les voit faire, c'est quand même assez inouï, ces ingérences dans les affaires intérieures des États européens avec un vice-président, donc en fonction, J.D. Vance, qui vient à Munich pour il refuse de rencontrer le chancelier Scholz.
La conférence sur la sécurité Europe.
Oui, à Munich, à la conférence sur la sécurité de Munich. Et il refuse de rencontrer le chef de gouvernement en exercice en Allemagne, chancelier Olaf Scholz, pour aller voir de façon très ostensible, pour aller rencontrer la chef d'un parti néo-nazi, Alice Weidel, l'AFD.
Soutien à l'extrême droite allemande dans le cadre des élections qui viennent d'avoir lieu.
Et ces élections avaient lieu une semaine plus tard. Mmh. Et tout ça dans le sillage d'une action également, d'une intervention de fameux Elon Musk, qui n'est pas totalement une personne privée, qui a offert son réseau social X au congrès, ou en tout cas à ce parti d'extrême droite, à quelques semaines de l'élection. Donc, on doit se poser des questions sur la stratégie américaine vis-à-vis de l'Europe, vis-à-vis de la Russie.
Pierre Buller, est-ce que vous craignez que les Américains ne se coordonnent avec les Russes pour une capitulation de l'Ukraine ?
Oui, tout est à craindre. Et d'ailleurs, le président de la République, dans son discours de mercredi, l'a souligné. Une capitulation est inacceptable du point de vue de la sécurité européenne. Et cette question, avait-il précisé d'ailleurs dans la conférence de presse conjointe avec Donald Trump quand il était à Washington, c'est une question existentielle pour l'Union européenne et pour l'Europe dans son ensemble. Donc, tout est possible et je crois que précisément ce discours de mercredi dernier avait pour objectif de poser enfin une analyse et de dessiner une direction d'action. Et je crois que c'est un moment assez crucial dans l'évolution de l'Europe et il reste simplement qu'on ne sait pas quelles sont les intentions réelles de Trump vis-à-vis de l'Europe. J'ai lu dans une revue des pays baltes un compte-rendu d'une conversation entre Bill Clinton en 1999 et Boris Yeltsin. Et Boris Yeltsin lui dit, ça se passait à Istanbul, je crois. Ancien président russe, oui. Et donc Yeltsin lui dit, mais Bill, on est amis, mais il y a une chose que je dois te dire, ce que je voudrais te demander, c'est que, bon, nous sommes des Européens. Et je suis très heureux à Moscou, mais... ce que je te propose, c'est que nous prenions, vous assurez la sécurité de qui vous voulez, mais nous, on est prêt à assurer la sécurité de l'Europe. L'Europe, c'est à nous. Nous sommes des Européens. L'Europe, c'est à nous. Tu nous laisses l'Europe. Je ne sais pas dans quel état était le président Yeltsin à ce moment-là, mais c'est de relire ça avec un quart de siècle plus tard, avec la distance d'un quart de siècle, on sent véritablement qu'il y a cette vision russe, cet impérialisme qui est presque atavique dans Russie depuis la période tsariste, avec d'ailleurs, je me souviens également que pour se replonger peut-être un peu en arrière, comme je l'ai fait d'ailleurs dans mon livre sur la Pologne, j'ai retrouvé une fameuse citation de Catherine II, qui écrivait, la tsarine Catherine II, qui écrivait à Voltaire, notre grand philosophe, après le premier partage de la Pologne, pour lui dire ben, nous n'avons trouvé de meilleur moyen de garantir nos frontières que de les étendre. Qui veut dire quelque chose. Et je pense que cette vision a perduré à travers l'époque tsariste, l'époque soviétique, et elle continue d'habiter la Russie. Donc, je dirais que le moment est quand même important pour les Européens de se retrouver dans une sorte de... entre le marteau et l'enclume, entre cette Russie agressive et... On voit tous les jours à quel point elle est agressive vis-à-vis de l'Ukraine et vis-à-vis d'autres. D'ailleurs, le président l'a également souligné par la désinformation, les violations de la souveraineté des États. D'une part, la Russie, donc entre le marteau et l'enclume, et d'autre part, les États-Unis qui semblent avoir choisi la Russie comme partenaire. Cette contradiction, ce paradoxe que je soulignais tout à l'heure, il faut que les Européens puissent l'assumer et arrivent à comprendre la nature du moment. Je pense que ce sera certainement le cas. et prendre les bonnes décisions en sachant qu'il y a quand même ce handicap sur la libre utilisation des armements dont ils sont les utilisateurs et les propriétaires, a priori.
Ce qui n'est pas un petit handicap. On vous retrouve, Pierre Buller, après le journal. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Regard sur l'Europe, notre invité Pierre Buller, ancien ambassadeur de France à Varsovie, professeur de relations internationales à Sciences Po. Son dernier ouvrage, Pologne, histoire d'une ambition, comprendre le moment polonais, aux éditions Talendier. Pierre Buller, on a assez largement évoqué dans la première partie de l'émission cette impasse, d'une certaine manière, dans laquelle finalement l'Europe se retrouve aujourd'hui, avec la suspension de l'aide militaire américaine à l'Ukraine, l'achat par les Européens d'armement américain pour lequel il faut l'autorisation de Washington en cas d'utilisation. On sent bien l'impasse, hein, cette question, comment s'en sortir. Quelles sont, d'après vous, les options pour l'Europe?
Alors, il y a certains mouvements quand même qui sont appréciables, hein. En Allemagne par exemple, où après donc cette élection récente et cette prochaine entrée en fonction du futur chancelier Merz, il a quand même fait un constat à la télévision pour dire que jamais je n'aurais pu dire publiquement que les États-Unis sont en train de prendre leur distance et qu'il faut que nous assurions nous-mêmes notre défense, un peu dans un lointain écho à ce que disait la chancelière Merkel en 2017 ou 2018, à la fin du G7 de Taormina en Sicile, où elle avait été très malmenée par Donald Trump. Elle était rentrée en Allemagne, elle avait dit « Nous, Européens, nous devons prendre notre destin en main », ce qui était une déclaration assez solennelle et forte venant d'Angela Merkel. Ce qui s'est passé, rien. Et là, je crois que même après la fameuse Zeitenwende au lendemain de l'agression russe contre l'Ukraine, le chancelier Scholz avait annoncé ce changement d'époque, Zeitenwende, avec des dépenses de défense, un budget de 100 milliards d'euros. Mais à vrai dire, ça ne s'est pas non plus passé. Là, nous sommes d'abord dans les négociations de coalition en Allemagne. Les deux parties se sont mis d'accord, CDU donc et SPD se sont mis d'accord pour une augmentation très significative du budget de la défense, l'abandon du principe du tabou de l'endettement, qui est un tabou fort en Allemagne, mais ils ont dit voilà, nous ne serons plus tenus par ça. Du côté européen aussi, le consensus sur l'abandon des règles, enfin en tout cas l'extraction des dépenses de défense du plafond de déficit budgétaire. Donc, il y a une véritable mobilisation, mais je pense qu'en Allemagne, avec notamment ce chancelier Merz, il y aura véritablement, on entre dans un modus operandi, je dirais, décisionnel. Également, ce même chancelier Merz a sollicité l'ouverture d'un dialogue, d'une conversation ou d'un débat sur la dissuasion nucléaire française et quelle contribution elle pourrait apporter à la sécurité de l'Europe. Le président Macron, dans son allocution de mercredi dernier, a pris acte et a consenti à l'ouverture de ce débat. Donc on est dans une phase véritablement de réveil et d'action. On n'est plus simplement dans le déclaratif comme on pouvait l'être auparavant. Alors il y a également un appel à une européanisation de l'industrie de défense. Mais on répète, je souligne à nouveau la contrainte que constituent les arsenaux existants et leur nature américaine et les limitations qui pèsent sur elles dans toute utilisation au service de la défense de l'Europe et notamment en Ukraine. Et ces équipements, bon, bien sûr, on peut lancer des programmes d'armement aujourd'hui très ambitieux, mais quand on lance des programmes d'armement, il y a 10 ans avant que tout cela sorte véritablement des usines. On peut évidemment augmenter les cadences de ce qui est déjà existant, mais enfin, pour les armements nouveaux, il y a une période assez longue de mise au point, de développement. Et surtout, ces armements achetés aux États-Unis, mais ils ont une durée de vie longue. Ils peuvent... voilà,
on en a pour 50 ans.
On en a pour 50 ans, je crois qu'on peut le dire. Hein. Ils sont programmés pour durer plusieurs décennies. Et donc, on n'a que ces moyens-là pour assurer la sécurité de l'Europe. Pas seulement de l'Union européenne, mais de l'Europe, avec les membres, les alliés non membres de l'Union européenne. Donc, cette épée de Damoclès continue de peser sur les têtes des Européens. Et il faudra qu'ils trouvent des moyens de contourner. Alors, est-ce qu'au fond, à un moment donné, ils peuvent dire, bon, ben voilà, pour nous, il est existentiel que nous puissions utiliser ces armements. Voilà, on va devoir les utiliser. Sachant que tout ça est quand même sous un strict contrôle technique de Washington, parce qu'il y a des pièces de rechange, enfin, il y a des éléments qui peuvent peut-être être
tout invalidés. Est verrouillé d'une certaine manière.
Oui, on ne sait pas. Bon, je ne sais pas ce qu'il en est exactement, mais il y a quand même des moyens d'influence très conséquents des Américains, d'autant plus que ces systèmes fonctionnent dans un environnement largement assuré par les États-Unis, qu'il s'agisse de satellites, de renseignements, de communication. Donc, je ne vois pas, je ne pense pas qu'ils puissent être utilisés de façon indépendante de cet environnement assuré aujourd'hui par les Américains. Bon, c'est un peu, je dirais, une satisfaction, un motif de satisfaction pour la France, qui a toujours refusé de se retrouver dépendante, que ce soit pour sa dissuasion nucléaire ou pour ses armements conventionnels, toujours refusé d'être dépendant des États-Unis, et notamment les industriels français, quand ils conçoivent des armements qui peuvent être destinés à l'exportation vers des pays peut-être que les États-Unis n'aiment pas, une disposition qui s'appelle ITAR-free, c'est-à-dire libre de la contrainte, ce fameux accord ITAR.
Que vous évoquiez largement dans la première partie de l'émission.
Oui, et donc ça permet, ils sont libres, totalement libres d'emploi. Alors, la dissuasion nucléaire britannique est également un peu sous l'ombrelle, sous la statue du commandeur américain, alors avec des éléments qui sont d'origine américaine, mais surtout intégrés dans le groupe des plans nucléaires de l'OTAN, et donc pas du tout d'emploi libre. Et quand une dissuasion est soumise non pas à une double clé, mais à ce type de contrainte, elle est affaiblie, je dirais, pour dire le moins.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Alors, vous parlez de l'OTAN, Pierre Buhler. Pour en revenir à la Pologne, qui est un peu notre sujet d'aujourd'hui, je parle sous votre contrôle, elle est aujourd'hui la Pologne au troisième rang des forces de l'OTAN, derrière les États-Unis et la Turquie. C'est vraiment le bon élève de l'OTAN qui veut désormais devenir le leader de la défense européenne. Quelle est la teneur des débats actuellement en Pologne sur ces questions, Pierre?
Alors, je dirais troisième rang en termes conventionnels, c'est-à-dire ils affichent une armée de plus de 200 000 hommes, à peu près au même niveau que la France, mais enfin sans nécessairement avoir aujourd'hui les moyens qu'a la France, et notamment évidemment pas la dissuasion nucléaire. Alors, l'état du débat, je disais un peu plus tôt que les Polonais sont estomaqués, ils sont surpris, ils sont inquiets. La tournure que prennent les événements. Et même ce qu'on me dit, c'est que dans les pays baltes et en Pologne, il y a comme un vent de panique qui souffle. Parce que pour eux, c'est existentiel, je mettrais en gras et en majuscule, ces pays, la Pologne, les pays baltes, mais bon, aussi la Finlande d'ailleurs et la Roumanie, ont été les victimes du pacte Molotov-Ribbentrop. Ils ont disparu de la carte de l'Europe en 1939. Ça laisse des traces, ça. Ils savent qu'ils sont un peu conscients. En plus, la Pologne a disparu de la carte de l'Europe pendant 123 années avant, enfin, entre le dernier partage et l'indépendance en 1918. Donc, ils sont conscients de la gravité de la situation et du risque. Lech Kaczynski, qui était donc le président en 2008, quand la Russie a attaqué la Géorgie, s'est rendu immédiatement à Tbilissi et a pris la parole devant la foule rassemblée. Il y avait aussi les chefs d'État et de gouvernement des pays baltes. Il dit, bon, aujourd'hui la Géorgie, demain, ça sera l'Ukraine. Puis les pays baltes, et un jour peut-être ce sera le tour de mon pays, la Pologne. Donc c'est ce que un intellectuel polonais très en vue qui s'appelle Jarosław Kwisch appelle la souveraineté post-traumatique. Et ils savent que rien n'est garanti, rien n'est certain, et que donc il faut se défendre. Et ce que disait d'ailleurs Donald Tusk l'an dernier, il disait deux choses: plus jamais de faiblesse et plus jamais de solitude. Plus jamais de faiblesse parce que dans l'histoire, il y a eu des moments de faiblesse qui se sont très mal terminés. Et il y a eu des moments de solitude aussi. Et c'est un peu une pierre dans le jardin de l'extrême droite du Parti PiS.
Et Donald Tusk, le Premier ministre polonais.
Premier ministre polonais, absolument. Et donc, plus jamais de faiblesse. Alors, on s'arme auprès des États-Unis, avec cette commande pharaonique, mais aussi ils construisent des dispositifs défensifs dans le nord-est de la Pologne face à un éventuel déferlement, enfin pour ralentir ou empêcher un éventuel déferlement des chars russes. Donc il y a aussi une dimension nationale de besoin, enfin de mobilisation de la population, ce qui est effectivement le cas derrière cet effort d'armement considérable. Alors ils sont donc ils tombent de haut par rapport à leur engouement pour les États-Unis. Et ils savent aujourd'hui, je crois qu'ils savent pas très bien à quel sein se vouer, mais ils savent qu'ils sont un élément essentiel du dispositif de sécurité européen. Pas nécessairement de l'Union européenne, mais Donald Tusk était effectivement à la réunion de Londres. Ils sont un peu discrets aujourd'hui, car ils sont en pleine campagne électorale, avec un enjeu important, l'élection du président de la République en mai, enfin une élection à deux tours, avec un enjeu important qui est de ne pas retomber dans une cohabitation où ils sont actuellement, qui paralyse le fonctionnement de l'État. Et donc, je pense qu'ils ont été très, très prudents, pour ne pas dire réticents, à la suggestion de mettre à disposition des forces armées dans le cas où il faudrait surveiller une paix qui serait signée. C'est ce que le président Macron a d'ailleurs...
Avec l'envoi de troupes.
Avec l'envoi de troupes pour garantir le respect des obligations des partis dans l'hypothèse d'un accord de paix. C'est quand même de ça qu'il s'agit. Donc les Polonais ont dit non, nous ne pourrons pas. Bon, un des arguments invoqués était sans doute la proximité des élections. Mais je pense qu'il y a aussi une réticence à envoyer des troupes polonaises en Ukraine, où parce qu'il y a des contentieux historiques qui n'ont pas été apuré.
Ce qui n'a pas empêché la Pologne de servir de pays d'entrée.
Non, bien sûr, effectivement.
Et soutien massif à l'Ukraine.
Absolument, et ça, ils comprennent que c'est leur intérêt bien compris, que c'est même la raison d'État commande ce type de. Mais ces contentieux anciens remontent à la surface aujourd'hui, et ça fait partie un peu des contentieux mémoriels qui voilà, qui vont obérer la relation future entre la Pologne et l'Ukraine. Et bon, ils savent aussi que si d'aventure des soldats polonais étaient en Ukraine, la stratégie de désinformation russe serait de dire, bah oui, voilà, les Polonais, ils sont en train de reprendre leur portion d'Ukraine qu'ils ont obtenue,
qu'ils occupaient. Un narratif facile sur lequel les Russes pourraient rebondir,
on n'a aucun doute là-dessus, je dirais.
Et on sait la Pologne aussi réticente à l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne.
Pas sur le principe, mais avec une condition qui est celle d'apurer ce contentieux qui était notamment, qui portait sur des massacres de Polonais, de civils polonais en 1943 en Volhynie, dans une partie occidentale de l'Ukraine. Mais bon, ces contentieux perdurent.
Pierre Bullard, le temps passe très vite et il y avait plein de sujets à aborder, mais vous parlez de moments polonais dans votre ouvrage, fait partie du titre, hein, « Pologne, histoire d'une ambition, comprendre le moment polonais ». Est-ce que précisément l'attitude de Washington avec ce retrait de l'aide à l'Ukraine et les difficultés finalement que tout cela génère viennent obérer d'une certaine manière l'ambition de la Pologne et ce moment polonais ?
Alors je dirais s'il faut se projeter un peu dans l'avenir, peut-être, pas dans le court terme immédiat, mais la Pologne occupe une position clé dans la géographie de l'Union européenne face à la menace russe. Bon, si l'Ukraine devait capituler, serait acculé à la capitulation, ce qu'à Dieu ne plaise et ce que les Européens ne peuvent accepter, mais bon, on ne sait pas de quoi demain sera fait, la Pologne est vraiment serait, la clé de voûte de la sécurité européenne, parce que les Pays-Baltes sont de petite taille, beaucoup moins peuplé que la Pologne. La Pologne a décidé de s'armer de manière très, très impressionnante. Donc, je dirais que ce moment polonais, il restera durable, car j'utilisais ce terme un peu par contraste avec la condescendance avec laquelle on traitait tous les pays de cette région. Quand ils mettaient en garde, qu'il s'agisse des Baltes ou des Polonais, ils mettaient en garde contre la menace russe. On considérait que voilà, ce sont des Russes.
Le on, c'est qui, Pierre Bullard ?
À l'Ouest, en Europe de l'Ouest. Je pense que certains présidents ont, dans le passé, traité la Pologne avec une condescendance, voire avec mépris, en rejetant un peu ses voisins de l'Est, dans une sorte de périphérie. Oui, d'accord, bon, ils ont souffert, mais fondamentalement, ils sont russophobes et ils nous empêchent de faire affaire avec la Russie. Et là, je dirais, tout le monde a compris, bon, je me souviens même que de cette concession du président Macron à Bratislava en mai 2023, où il disait, oui, on vous a dit que vous avez manqué une occasion de garder le silence, mais je pense qu'on a surtout manqué une occasion de vous écouter. Et ça a été très bien reçu dans cette partie de l'Europe. Ils considèrent qu'ils sont en première ligne et que c'est d'eux, au fond, que dépendra la sécurité future de notre continent et, je dirais même, l'avenir de l'Union européenne. Parce que si une partie des États membres de l'Union ne fût-ce qu'un État membre de l'Union européenne serait attaqué, un pays balte par exemple, et que l'Union européenne ne puisse pas se porter à son secours et le défendre, je vois très bien ce que voulait dire le président de la République en parlant de d'enjeux existentiels pour nous.
Et à un moment stratégique pour l'Europe, existentielle également. Merci Pierre Bullard. Je rappelle que vous êtes ancien ambassadeur de France à Varsovie et professeur de relations internationales à Sciences Po. Et votre dernier ouvrage, donc, Pologne, histoire d'une ambition, comprendre le moment polonais, paru aux éditions Talendier. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Mathias Golchani à la réalisation et Cécile Lavolo. Vous êtes bien sur RFI, place au Journal Afrique.